Radio Prague, les informations.
La société Diag Human a demandé la saisie de 3 œuvres d'art tchèques à Vienne. Les politologues tchèques sont contre l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Le ministère des Affaires étrangères envisage de supprimer certaines ambassades tchèques en Europe. La société Diag Human a demandé la saisie de 3 œuvres d'art tchèques ayant été prêtées pour une exposition à Vienne. La police autrichienne a saisi des tableaux d'Emil Schiller et de Vincenz Benesch et une statue d'Otto Gutfreund. La société Diag Human mène un long processus d'arbitrage contre la République tchèque. Diag Human accuse les autorités tchèques d'avoir nui à son commerce de plasma sanguin et demande un dédommagement. Les politologues ayant participé à une conférence sur l'élection présidentielle organisée au Sénat, chambre haute du Parlement tchèque, ont rejeté le projet d'élection présidentielle au suffrage universel direct en République tchèque. À leur avis, l'élection présidentielle directe élargirait les pouvoirs du chef d'État et affaiblirait le gouvernement. Le président de la République tchèque est élu par les deux chambres du Parlement. L'archevêque de Hradec Králové, Karel Očenášek, est décédé dans la nuit de lundi à l'âge de 91 ans. Né en 1920, il devient prêtre en 1945 et 5 ans plus tard est fait évêque dans le secret. Emprisonné pendant une dizaine d'années par les communistes, il sera amnistié en 1962 et travaillera en tant qu'ouvrier avant de pouvoir reprendre ses activités pastorales. Le ministère tchèque des Affaires étrangères envisage de supprimer certaines ambassades de République tchèque en Europe. Selon le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg, il est temps de faire le tri. Le ministre a fait cette déclaration ce mardi à la réunion de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés qui se penchait sur la nouvelle conception de la politique étrangère de la République tchèque. Karel Schwarzenberg a refusé cependant de nommer les ambassades qui pourraient être fermées. La Thaïlande a extradé 2 Tchèques en cavale depuis leur condamnation en 2008 pour avoir dérobé des millions de couronnes d'un fourgon de transport de fonds. L'an dernier, Josef Blažek et Rudolf Tesárek ont été condamnés à une peine de 10 ans de prison pour le vol de 74 millions de couronnes. Après un an de prison, la ministre de la Justice de l'époque les avait fait relâcher en raison de crainte d'une erreur judiciaire. Les deux hommes se sont enfuis avant que le nouveau ministre de la Justice ne change d'avis. Recherchés par Interpol, les deux hommes ont été arrêtés dans la ville thaïlandaise de Pattaya au début du mois. La République tchèque et le Bahreïn ont signé un accord sur les mesures contre la double imposition et la fraude fiscale. L'accord a été signé par le ministre tchèque des Finances, Miroslav Kalousek, et son homologue de Bahreïn, le cheikh Ahmad bin Mohammed Khalifa. Météo. Ce mardi, jour de fête de Yana, le ciel en Tchéquie a été ensoleillé et les températures du jour se sont situées entre 25 à 29 degrés pour les maximales. Mercredi, le ciel en Tchéquie sera toujours clair, mais les températures seront sensiblement moins élevées et ne dépasseront pas 23 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, et je cède le micro à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la visite de l'archevêque de Prague à Paris. Dominique Duka est en France car il envisage la mise en place d'un centre intellectuel et spirituel à Prague. En politique, en pleine crise d'identité, les affaires publiques, le plus petit des 3 partis de la coalition gouvernementale, ont réélu leur président du neuf avec du vieux, en quelque sorte, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Et puis en sport et en tennis, mauvaise surprise pour les Tchèques à Roland-Garros, demi-finaliste la saison dernière. Tomáš Berdych a cette fois été éliminé dès le premier tour par un illustre inconnu, un Français. Retour sur cette contre-performance en fin de journal. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, l'archevêque de Prague, Dominique Duka, effectue donc jusqu'à jeudi une visite à Paris. Au début de son séjour dimanche dernier, Dominique Duka et le cardinal André XXIII ont concélébré une messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une conférence au collège des Bernardins et une soirée débat à l'ambassade tchèque figurent également au programme de la visite du primat tchèque dans la capitale française. Les détails de cette visite avec Magdalena Rozinkova.
Le collège des Bernardins, situé rue Poissy dans l'un des plus vastes édifices médiévaux de Paris, est un lieu de débat entre l'Église et la société, un lieu de recherche, de formation théologique et aussi un lieu culturel. Conférences, colloques, plateaux de télévision, expositions et spectacles y sont organisés. Ils abordent des questions multiples se rapportant à l'homme, à son passé et à son avenir. Ce mardi, le collège des Bernardins organise une table ronde en présence de l'archevêque Dominique Duka. Avant son départ pour Paris, il a précisé à Radio Prague le thème de cette rencontre.
L'Église romaine catholique dans le moment de la Deuxième Guerre mondiale est la question collaboration et résistance sous Vichy, mais aussi sous la dictature communiste à la République tchèque, à Pologne, à Hongrie, à Slovaquie.
Cette table ronde, consacrée donc à la guérison de la mémoire historique dans les sociétés post-communistes et plus particulièrement à la collaboration des prêtres avec les services secrets de l'époque, réunit plusieurs spécialistes, par exemple le prêtre Tomasz Dostatni, président de l'organisation polonaise Ponad Granicami, l'évêque auxiliaire de Paris Éric de Moulin-Beaufort, qui co-dirige le pôle de recherche Société Liberté Paix au Collège des Bernardins, ou encore Antoine Ariakovski, fondateur et directeur de l'Institut d'études écuméniques de Lvov en Ukraine. Pour l'archevêque de Prague, le collège des Bernardins est une source d'inspiration. Dominique Duka, qui appartient à l'ordre des Dominicains, entend mettre en place un centre similaire à Prague. On l'écoute.
C'est le projet des petits collèges des Bernardins à Prague, dans notre couvent de Dominicains. Et je voudrais aussi visiter le collège Bernardin à Paris, j'ai la possibilité déjà de parler au chef directeur spirituel, évêque, mais aussi avec quelques hommes qui sont réellement occupés avec ce collège.
La rénovation et la revitalisation du couvent des Dominicains, qui se trouve rue Jelska dans la vieille ville de Prague, sont envisagées depuis 2006 et devraient bientôt débuter. Les Dominicains aspirent donc à créer un lieu de dialogue intellectuel et spirituel ouvert au grand public, un centre qui fait défaut et pas seulement dans la capitale tchèque. En novembre prochain, le cardinal André XXIII devrait à son tour venir à Prague pour participer à une conférence sur le nouveau statut de la cathédrale Saint-Guy. Il y a tout juste un an, le 24 mai 2010, l'Église catholique et l'État tchèque se sont mis d'accord sur la gestion commune de celle-ci. En ce qui concerne le futur fonctionnement de la cathédrale, qui devrait davantage être axé sur des manifestations culturelles, Dominique Duka veut également s'inspirer en France.
On passe à la politique. Un vote électronique au sein du parti Affaires publiques, la plus petite des trois formations de la coalition gouvernementale, a abouti lundi à la réélection de Radek Yon au poste de président. Avec 46% des suffrages exprimés, Radek Yon a devancé ses deux adversaires, la chef du groupe parlementaire des Affaires publiques, Karolina Pik, et la députée Dagmar Navratilova. Retour sur cette élection avec Pierre Maignan.
Avec deux ministres, les Affaires publiques sont le plus petit parti de la coalition gouvernementale de centre-droit, composée également du Parti civique démocrate, ODS, du Premier ministre Petr Nečas et de Top 09. Apparu sur la scène politique quelques mois seulement avant la tenue des élections législatives au printemps dernier, les Affaires publiques traversent une grave période d'instabilité en raison de multiples scandales dans lesquels ses plus hauts responsables ont été impliqués ces derniers mois. Les 6225 participants au vote ont pu s'exprimer depuis leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables. Radek Yon a rassemblé 1197 voix et Karolina Pik 976. Dagmar Navratilova finissant quant à elle bonne dernière avec 350 voix. L'ambition de Radek Yon est de réussir à imposer au gouvernement la réalisation de 30% de son programme et de développer le volet social de son parti. Difficile à croire car il a en effet réaffirmé suite à sa victoire qu'il ne céderait pas d'un pouce lors des pourparlers avec les partenaires sociaux à propos des réformes en cours.
Když uvážíte, že jiní předsedové stran jsou voleni 300 delegáty, tady jsou to tisíce lidí.
Si l'on tient compte du fait que les présidents des autres partis sont élus par des collègues de 300 délégués, alors que ce sont ici des milliers de gens qui ont voté, vous comprendrez qu'en accord avec ce mandat et avec les régions vers lesquelles je me suis tourné et qui me l'ont demandé, nous ne céderons pas d'un pouce.
La chef du groupe parlementaire des affaires publiques, Carolina Pick, a recueilli 121 voix de moins que Radek Yon, auquel elle a exprimé ses vœux de succès.
Pour moi, c'est une ratification du mandat que Radek Yon a reçu voici 2 ans, la plateforme à partir de laquelle le parti Affaires publiques a pu présenter des candidats à des postes de députés sera renouvelée. J'espère que tous ensemble, et pas seulement Radek Yon, mais toute notre équipe, nous réussirons à renouveler la confiance en ces plateformes, en nos objectifs qui, malgré toutes les attaques que nous avons subies, sont toujours valables. Et Radek Yon est la personne qui a porté cette plateforme au Parlement. A Radek rozhodně tváří, kdy
tuto platformu do sněmovny přinesl. Touchée par des problèmes de conflits d'intérêts et de corruption, alors même que l'une des ambitions des affaires publiques était précisément de lutter contre la corruption, Radek Yon, Vid Bartha et consorts auront cependant fort à faire pour sauver cette plateforme. À en croire de récents sondages, si les Tchèques avaient de nouveau l'opportunité de voter pour élire leurs députés, le Parti des Affaires publiques n'entrerait plus à la Chambre des députés, où il dispose actuellement de 24 sièges.
La performance fait la une de l'équipe ce mardi. 140e joueur mondial est sorti des qualifications. Le Français Stéphane Robert a créé l'exploit du jour lundi à Roland-Garros en battant Tomáš Berdych, numéro 7 mondial, en 5-7, 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 9-7. Malgré 2-7 d'avance donc et une balle de match dans sa raquette dans le 5e, le Tchèque tête de série numéro 6 quittait prématurément une terre battue parisienne sur laquelle il avait disputé les demi-finales l'année dernière. Seule consolation pour les Tchèques, porte d'Auteuil, Petra Kvitová s'est-elle facilement qualifiée pour le 2e tour.
Quand je perds au 1er tour d'un grand chelem, c'est contre un Français. Je ne sors donc pas des sentiers battus, mais j'espère quand même que les choses vont changer à l'avenir.
Les Français sont maudits pour Tomáš Berdych. Lors du dernier US Open, c'est déjà contre un Français, Michael Laudra, que Tomáš Berdych avait été sorti dès le 1er tour. À la différence toutefois de sa précoce élimination parisienne, scellée à l'issue d'un match accroché en 5-7 contre un illustre inconnu, à New York, le Tchèque avait été battu sèchement en 3-7 par un joueur d'un tout autre calibre, comme le prouve l'actuelle 24e place de Michael Laudra au classement ATP. Surtout contre Stéphane Robert, avant de voir le gain du match lui filer entre les doigts, Tomáš Berdych a mené 2-7 à rien, même s'il estime ne pas avoir spécialement bien joué à ce moment-là du match.
Je ne dirais pas que les deux premiers sets ont été super excellents. Simplement, j'ai su profiter des balles de break qui se sont présentées et j'ai tenu mon service sans particulièrement bien jouer. C'était un match très étrange, il n'y avait pas de rythme. C'est donc difficile d'analyser ces deux premiers sets.
Plus facile à analyser en revanche, les 3e et 4e sets ont vu Tomáš Berdych perdre peu à peu le fil, tandis que de l'autre côté du filet, son adversaire, sur un nuage, jouait lui le match de sa vie. Et tandis qu'après la première heure de jeu, l'affaire semblait entendue et Berdych avait déjà un pied au 2e tour, 2h30 plus tard, Stéphane Robert, bien soutenu par le public, remportait le premier match en 5-7 de sa carrière, battait pour la première fois un joueur appartenant au top 10 mondial et gagnait son premier match à Roland-Garros. Un succès que le Français, comme il l'a reconnu à la sortie du cours, doit en partie à Tomáš Berdych. Il explique pourquoi.
Il a commencé à commettre quelques erreurs et ça m'a redonné un peu de confiance. Je gagne ce 3e set et c'est vrai qu'en début de 4e, je me dis est-ce qu'il va vraiment mettre le coup de rein pour essayer de finir le match. Et je le break d'entrée, donc là j'ai commencé à me dire qu'il y avait un coup à jouer parce qu'il n'était pas au mieux. Et voilà, et j'ai eu peur quand il y a eu 4-2 au 5e, je me suis dit là, ce serait dommage de passer à côté. Et je suis resté hyper agressif et j'ai réussi à recoller. Et ensuite, voilà, ça s'est joué au coude à coude et ça m'a souri.
Même à égalité à 2 manches partout, Tomáš Berdych a pourtant eu encore l'occasion de s'imposer dans le 5e set, mais le Tchèque n'était décidément pas dans un bon jour et a finalement lâché prise pour s'incliner 9 jeux à 7.
Je regrette surtout mon service perdu dans le cinquième set, alors que je venais de prendre son engagement. J'ai aussi eu une balle de match, je ne peux donc pas dire que je n'ai pas eu ma chance. Mais comme on dit, j'ai bu le calice jusqu'à la lie. Tout était réuni aujourd'hui pour que je perde. Lui a été excellent, tous ses coups étaient gagnants, il retombait sur les lignes, tandis que moi je multipliais les fautes. Cela arrive de temps en temps, mais j'espère qu'il n'y aura plus de matchs comme celui-ci cette année et que ça ira mieux maintenant.
Depuis le début de saison, même si ses résultats restent honorables, Tomáš Berdych tarde à confirmer ses performances de la saison dernière, quand il avait notamment atteint les demi-finales à Roland-Garros, la finale à Wimbledon et participé aux Masters. Et comme il l'a reconnu lundi au sortir de son élimination, il reste encore très loin du niveau du duo Nadal-Djokovic, les deux grands favoris de Roland-Garros cette année. En revanche, l'autre candidate tchèque a un long parcours sur la terre battue parisienne. Petra Kvitova s'est-elle facilement débarrassée de la hongroise Greta Arn, 46e mondiale, en 2-7 vite expédiée, 6-2, 6-1. Au deuxième tour, la gauchère tchèque, tête de série numéro 9 du tournoi, sera opposée à la chinoise Ji Zheng, 80e mondiale. Un obstacle a priori pas insurmontable pour Petra Kvitova, mais les tchèques savent désormais qu'il faut se méfier de tout le monde. Voilà, c'est sur cette note sportive que s'achève ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie. Avec la bière, c'est la boisson la plus connue de République tchèque, la Bekerovka, une liqueur à base de plantes inventée il y a déjà plus de 200 ans dans la station thermale de Karlovy Vary, mais dont la recette reste toujours secrètement gardée par la société Jan Becker. Il y a 10 ans, cette société tchèque est entrée dans le giron du groupe français Pernod Ricard. Dans le panorama d'aujourd'hui, Alexis Rosenzweig vous propose un entretien avec Ludmila Stefkov, la directrice du marketing de la société Jan Becker.
Panorama.
Panorama.
Bonjour Ludmila Stefkov. Alors, première question peut-être, est-ce que vous connaissez vous-même la recette de la Bekerovka?
Eh bien, en fait, non. Bekerovka est élaborée à partir d'un mélange d'herbes et d'épices. Mais la formule secrète de ce mélange n'est connue que de 2 personnes dans la compagnie, le responsable de la production et le directeur des opérations.
C'est pas vous qui allez nous donner le secret aussi bien gardé que le secret du Coca-Cola presque.
Ce n'est pas moi. Par contre, ce que je peux ajouter, c'est que cette recette est inchangée depuis 1807 et que Bekerovka est élaborée uniquement à partir d'ingrédients naturels et ne fait pas l'objet d'ajouts d'additifs, ce qui lui confère son goût et sa qualité unique.
Alors, Bekerovka appartient depuis quelques années à la société Pernod Ricard. Est-ce que je peux vous demander ce que représente Jan Becker, la société Jan Becker, dans l'empire Pernod Ricard qui est assez immense?
Alors, Bekerovka, la marque Bekerovka, fait partie des 18 marques clés locales du groupe Pernod Ricard. En République tchèque et en Slovaquie, bien sûr, elle représente la part la plus importante de l'activité de ces deux filiales et elle solidifie notre assise dans les réseaux de distribution, ce qui nous permet de développer nos autres marques. Réciproquement, Bekerovka bénéficie dans le monde de la puissance de distribution Pernod Ricard et est exportée avec succès, notamment en Allemagne, en Russie et en Ukraine. Et là, nous venons de lancer la marque aux États-Unis via la filiale Pernod Ricard et nous espérons beaucoup de ce lancement.
Est-ce qu'en France, il y a un petit espoir également?
En France, le marché des amers est un petit peu différent, situé sur d'autres goûts, avec des amers plus typés gentiane. Et donc c'est vrai que les zones de succès de Bekerovka se situent plus sur Europe centrale, Europe de l'Est et éventuellement États-Unis, où on aime aussi ces goûts venus d'Europe centrale.
Alors, la société Jan Becker a également essayé de diversifier un peu ses goûts en lançant, il y a environ 2 ans, je crois que c'était en 2008, la Bekerovka Lemon, donc la Bekerovka Citron. Est-ce que on peut considérer ça comme un succès ou c'est un échec?
Alors, Lemon est un grand succès. En moins de 3 ans, Bekerov Kaleman s'est hissé dans le top 3 de nos marques en termes de contribution République tchèque. Cette année, les mandes a encore progressé en termes de part de marché. Les indicateurs de notoriété et d'image qui sont déjà très élevés continuent de s'améliorer et atteignent aujourd'hui le niveau de marques installées depuis longtemps sur le marché. Actuellement, nous déroulons un programme d'animation en magasin et de soirée. Et ce programme est communiqué aussi via la radio et Internet.
Ludmila Stefkov, est-ce que la Becherovka, et peut-être accessoirement la Becherovka Lemon, même si c'est un produit nouveau, bénéficie de cet effet nostalgie? C'est comme ça qu'on appelle la nostalgie des produits des pays communistes, parce que ici en République tchèque, il y a eu un retour à la mode des cocktails qu'on buvait en Tchécoslovaquie sous le communisme, et notamment avec la Becherovka, il y avait le fameux béton, qui est un mélange de Becherovka et de tonique. Est-ce que la marque et la société Jan Becher peuvent surfer sur cette vague?
Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'avec ses 200 ans d'histoire et sa position actuelle de leader sur le marché des bitters, Becherovka est une marque éternelle et contemporaine. Becherovka accompagne les Tchèques dans leurs moments de convivialité depuis 1807 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est donc pour moi pas un effet de nostalgie qui fait son succès actuel, mais plutôt la permanence de sa qualité et la grande diversité de ses modes de consommation. On peut la consommer pure, bien glacée, mais aussi en mélange. Vous avez cité le béton, mais nous proposons aussi de nouveaux cocktails aujourd'hui, comme le Red Moon avec du jus de groseille, le Bee Celebration avec du ginger ale et de la liqueur de pomme, ou le Fresh Smashing avec du jus de pamplemousse.
Alors, n'oublions pas que tout ça, c'est quand même de l'alcool, donc à consommer avec modération, évidemment. Et justement, alors, cette semaine, il y a eu une journée d'action de lutte contre l'alcool au volant. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail, nous indiquer de quelle manière Pernod Ricard et la société Jan Becher, ici à Prague et peut-être dans toute la République tchèque, se sont impliqués dans ce programme?
Alors effectivement, à l'occasion du premier Responsible Day...
Alors c'est en anglais, il va falloir un petit peu expliquer comment ça se passe.
Voilà, alors l'ensemble des collaborateurs du groupe Pernod Ricard se sont mobilisés le lundi 23 mai autour d'une action commune, la lutte contre l'alcool au volant. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que le groupe Pernod Ricard est engagé dans la prévention des risques liés à la consommation excessive ou inappropriée d'alcool depuis de nombreuses années. Et que cette journée est l'aboutissement de longues années d'action. Durant cette journée, les 18 000 salariés ont été appelés à signer un manifeste, le Pernod Ricard Act, qui témoigne de notre engagement personnel concret dans cette action. Des initiatives ont lieu dans toutes les filiales du groupe. Chez Jan Becher, nous avons échangé sur ce sujet avant de signer formellement les manifestes, individuellement. Puis, tous les collaborateurs se sont rendus en petits groupes dans différentes stations-service pour promouvoir ce message de lutte contre l'alcool au volant auprès du public, notamment en distribuant bracelets et autocollants.
Alors, c'est la lutte, en tout cas, une lutte pour boire de manière responsable, mais particulièrement dans le cas de l'alcool au volant. Pour l'instant, on ne parle pas de boire avec modération dans les bars, c'est juste avant de prendre le volant.
Cette semaine, nous faisons notre priorité de la lutte contre l'alcool au volant, mais cette action s'inscrit dans une stratégie plus globale de promotion d'une consommation raisonnée et responsable et modérée d'alcool qui doit accompagner la consommation des produits Pernod Ricard et qui fait partie de notre éthique.
D'ailleurs, il faut rappeler qu'en République tchèque, c'est la tolérance zéro au volant, contrairement à la France, puisqu'on ne tolère aucune quantité d'alcool dans le sang au volant. En tout cas, Ludmila Stefkov, je vous remercie.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin du bloc actualité proposé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.